Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, dans le premier chapitre, les versets 14 et 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je lis le texte du Bible suédois de l'année 2000. Tout d'abord, je veux dire, comme le prophète Ésaïe a dit un jour, regarde Sion, tes yeux voient le Jérusalem. La joie et la reconnaissance, j'ai dans mon cœur un grand remerciement quand je vois la grande réunion d'été et tous ceux qui sont venus ici, à ceux de Fiaden. C'est un miracle, un grand miracle dans nos yeux. Dieu nous a bénis et nous voulons de tout cela remercier Dieu. Je veux tout spécialement dit bienvenue à tous ceux qui partent suédois ici. Vous êtes tous cordialement bienvenus. Nous avons maintenant la grande réunion d'été ici à Vaasa après 95 ans. La première fois, il y avait la grande réunion d'été à l'année 20, 1920, au milieu de la ville de Vaasa. Et il y avait quelques 2000 visiteurs. Mais ici, on attend que 75 000 personnes, visiteurs. Beaucoup s'est passé pendant ces 95 ans. Ici, pendant les années 1930, il y en avait beaucoup de gens que l'ennemi de mal a pu égarer. Il n'y avait que quelques peu, tout petit peu de croyants, mais aujourd'hui nous pouvons être réjouir. Dieu a fait grandir le nombre de son peuple ici dans la région de Vaasa. Nous prions de Dieu. Better. pour qu'il encore puisse par la foi amener les pécheurs dans son royaume par la repentance. Peut-être toi qui habites ici dans ce village ou un autre visiteur de la Réunion, tu es venu ici parce que par la curiosité pour regarder comment sont ces gens qui sont arrivés ici à Söderfjärden. C'était bien que tu es venu. Je veux te demander, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vois ici? Sûrement, tu as vu, tu as remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes ici à Söderfjärden. Peut-être que tu t'étonnes. Tu es étonné. C'est quoi qui fait que si grand nombre des hommes vont ici dans la grande réunion? La réponse tout simple, c'est que nous voulons réunir pour écouter la parole de Dieu. Nous voulons rencontrer les compagnons de voyage. Et nous voulons avoir la fortification pour notre foi faible par l'Évangile. Nous prions Dieu pour qu'il réveille la conscience d'un tel auditeur de la parole qui marche en dehors du royaume de Dieu. Et que Dieu puisse gagner au moins une telle personne dans son royaume par l'Évangile. Cet Évangile se proclame, on proclame cet Évangile ici dans la grande réunion d'été. La volonté de Dieu. Et que personne ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime les hommes pécheurs, mais il haït le péché. On peut encore entendre l'appel des bons prophètes, comme prophète Esaïe a dit à son temps. Cher Seigneur, quand il peut être trouvé, invoque-lui quand il est présent. Que les impies quittent leur chemin et qu'ils rentrent ces seigneurs et ils leur accordent la grâce. Car il a beaucoup de pardon, il pardonne beaucoup de péchés. Mais il est ainsi. Que Dieu aussi dit, comme dans l'épître aux Hébreux, que
fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under 40 år.
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et virent mes œuvres pendant 40 ans. Maintenant, Dieu est proche. Il t'appelle dans la grâce de repentance. Maintenant, il veut t'approcher par sa parole. Le royaume de Dieu est ici, au milieu des hommes. On dit au début de notre texte, après que Jean eut été livré, pourquoi on avait emprisonné Jean? Parce qu'il avait parlé à roi Hérode, qu'il avait pris la femme de son frère et commis. La santé n'est pas agréable à ce monde, n'était pas agréable à Hérode. Notre texte continue. Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. L'ancienne traduction suédoise, on dit qu'il a proclamé l'Évangile. La parole de Dieu, la nouvelle de Dieu est aussi ici dans la grande réunion. Nous prions Dieu pour que lui-même puisse prêcher l'Évangile ici par les prédications qu'on entend ici. Que nous, les prédicateurs, uniquement prêtons nos bouches pour Seigneur, pour Dieu qui parle au cœur des auditeurs. Je veux maintenant raconter ce qui s'est passé il y a quelques années à Malax. J'avais eu une prédication là-bas en suédois. Il y en avait un homme qui vivait dans ce village et nous avons eu la pause pour le café et je lui ai demandé s'il comprenait ma prédication parce que je faisais beaucoup d'erreurs. Il a dit rapidement, que tu as mélangé il ou elle, mais, etc. Mais nous avons compris. Après quelques années, nous avons rencontré à nouveau à l'église de Malax. Et je lui ai dit quand nous avons rencontré Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit avant. Ça me touche, c'est touchant. Il me regardait gravement. Il a répondu. C'est le contenu des paroles qui est le plus important. C'est ça pourquoi je demande, même s'il y a beaucoup d'erreurs dans ma prédication, quand je parle en suédois, que vous essayiez de concentrer au contenu des paroles. C'est ça qui est la plus importante aussi ici, dans la grande réunion été. Nous avons préparé et construit cette grande réunion d'été pour que Dieu puisse trouver une personne qui cherche sa volonté et qui veut posséder la paix de Dieu et le pardon dans son cœur. Nous voulons le donner par l'Évangile qu'on proclame ici. Peut-être tu poses une question. C'est quoi le message de Dieu? Notre texte raconte quatre choses centrales. Tout d'abord, le temps est accompli. Ça voulait dire que Dieu avait accompli ses promesses. Le Messie était venu sur la terre. Il était arrivé. Celui qui écrase la tête, le serpent, comme Dieu lui-même a prophétisé au paradis. Mais les gens voyaient uniquement un homme qui n'avait pas l'être, il ne voyait pas. Il était comme un homme très normal. Il se passait ainsi que Esaïe a dit quand il a parlé de Messie. Ils étaient levés devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Quand Jésus a parlé dans son village où il habitait, à synagogue, première et peut-être aussi la dernière fois. Tout d'abord, les hommes ont lui regardé et écouté le grand fils de notre village est arrivé et maintenant il nous enseigne. Jésus a lu le texte d'Ésaïe où on parle de lui, où il y avait la prophétie de lui. Il commençait à proclamer, à prêcher. Aujourd'hui, ces écritures sont devenues vraies et tous ont été étonnés. Ils ont étonné les paroles de grâce qui sont venues de sa bouche. Mais un peu plus tard, ils ont pensé qu'il était le fils de Joseph. Matthieu écrit, ils ont dit, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas tout parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il se fâchait, il voulait le tuer. Si méprisé Jésus était dans son ville domicile, et Jésus leur a dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. On dit ainsi dans l'évangile de Marc. Il se passait dans la maison de mon enfance il y a 17 ans. Que Dieu a appelé, invité ma mère et toute ma famille. Le temps était accompli pour nous. Nous avions un voisin croyant. Ils avaient souvent parlé à mon mère que c'est important de repentir. Mais ma mère a pensé que chez les voisins, c'est la place dernière où on peut trouver le royaume de Dieu. Nous les connaissions si bien. Ma mère a commencé à prier, à trouver le lien avec Dieu. Elle a visité l'église et les différentes réunions et elle a prié moi avec elle. Mais il n'avait pas la paix de Dieu dans sa conscience. Il ne l'a pas reçue là-bas. Mais les péchés étaient lourds sur son cœur et elle pleurait souvent. Dans ces places où nous avons visité, il n'y avait pas de croyants. Qui aurait pu proclamer le pardon? plus tard, une fois, la mère des voisins a demandé à ma mère à venir pour la nuit chez sa mère qui était en train de mourir. Et elle habitait près de nous. Ma mère y est allée. Et après, la vie de ma mère s'est changée. Nous avons vu que quelque chose s'est passé. Elle avait reçu le don de la foi. La mère des voisins avait pu le bénir par l'évangile du pardon au nom et au sang de Jésus. Et ma mère a reçu la paix de Dieu dans son cœur. Dieu l'avait aidé dans son royaume. Il se passait ainsi que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Ma mère a raconté à ses relatives, aux amis, ce qui s'était passé. Elle a pris son lit. Elle a demandé le pardon des choses que sa conscience lui a dit. Elle a dit qu'on doit demander pardon. Il y avait beaucoup de relatives et les amis qui ne voulaient plus être avec elle. Ils pensaient que ma mère était devenue fou, folle. Il ne voulait pas discuter des questions de la foi. Après beaucoup d'ans, mon oncle nous a invités chez lui. Il était tombé gravement malade. Dieu l'avait arrêté. Il lui parlait maintenant. Il l'appelait. Nous sommes allés chez lui. Et après une courte discussion avec ma mère, il a reçu la grâce de la repentance. Il croyait l'évangile, le pardon. Ce qu'on avait semé dans la faiblesse vivait maintenant dans son cœur. Après uniquement quelques semaines, il était mort. Le combat dans la foi de mon oncle était si court sur la terre. Chers amis, chers frères et sœurs, croyants, il est ainsi. Que notre devoir, c'est proclamer l'évangile. nous devons parler de cela que Dieu nous a fait. Même si nous sentons, nous ressentons souvent que notre foi est faible, nous sommes pécheurs, mais quand même, c'est pourquoi Dieu a envoyé les siens dans le monde. Il les a envoyés à proclamer l'Évangile pour tout le monde. Il y a les autres croyants qui plantent et les autres qui arrosent. Mais c'est Dieu qui fait croître, comme dit Paul dans le premier épître aux Corinthiens. La justice vient par la foi et c'est uniquement le travail de Dieu en nous. C'est la grâce, c'est uniquement la grâce de celui qui nous appelle. On écrit dans les épîtres aux Romains. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cher auditeur de la parole? Est-ce que le temps est accompli aussi dans ta vie? Le temps à recevoir Seigneur dans ton cœur et croire l'Évangile. Le temps de Dieu est accompli. Tu peux croire tous tes péchés pardonnés au nom et au sang de Jésus. Et c'est Dieu qui te donne la puissance, la force de devenir son enfant. L'autre chose importante dans notre texte, c'est que le royaume de Dieu est proche. Jésus enseignait une fois ses disciples à prier, Notre Père qui est au ciel. Et on trouve là-bas aussi les paroles, que ton règne vienne. Est-ce que tu crois, cher ami, que le royaume de Dieu est proche maintenant? Que le royaume de Dieu se trouve ici, dans la grande réunion, au milieu des hommes. Les pharisiens ont venu une fois chez Jésus et demandé: quand deviendrait le royaume de Dieu? Jésus leur disait: le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Tu peux aussi prier que le royaume de Dieu puisse venir dans ta vie. Que la volonté de Dieu soit faite aussi pour toi, sera accomplie aussi dans ta vie. Que tu deviennes l'enfant de Dieu par la foi. La troisième chose importante dans notre texte, c'était « Repentez-vous ». Dans les autres traductions suédoises, on dit qu'on doit tourner. Ça ne veut pas dire qu'on change un tout petit peu la direction. Mais ça veut dire que nous changeons la direction entièrement, 180 degrés vers le ciel. Mais selon la Bible, nous ne pouvons pas faire nous-mêmes la repentance. La foi, c'est le travail de Dieu. Dieu agit en nous ainsi que nous recevons le pardon des péchés. Quand nous l'écoutons dans la prédication, apôtre Paul écrit que la foi devient en écoutant la chose la plus importante dans la vie. Comme Jésus a dit à ses auditeurs, cherche tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vont vous être données. Je cite maintenant un morceau de petite catéchèse de Martin Luther. Je crois que je ne puis par ma raison et mes propres forces croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute église chrétienne sur la terre, qui éclaire, le sanctifie et le maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi que tous ceux qui croient. C'est lui qui, dans le dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Ainsi a écrit réformateur Martin Luther. Quatrième chose importante dans notre texte, c'était croyez à la bonne nouvelle. Ou croyez à l'évangile. Dans l'épître aux Hébreux, on dit or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le message de la foi de Jésus, du Messie. Il a racheté nos péchés dans la croix. Évangile veut dire que Jésus m'a sauvé, moi et toi. Et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui croire nos péchés pardonnés au nom et au sang de Jésus. Quand nous croyons, c'est Dieu qui nous donne la force de devenir son enfant. Apôtre Jean a écrit dans son évangile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Nous pouvons poser la question, comment ça s'est passé au temps de Jésus? Est-ce que les gens ont cru en Jésus? Il s'est passé, comme Jésus a dit dans sa parabole, de deux chemins différents dans l'évangile de Matthieu. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Pour notre raison, par notre sagesse, il est impossible de croire parce que les choses sont par contraire, comme on dit dans l'épître aux Hébreux. Par la foi, nous comprenons. Par la foi, nous pouvons entrer un jour dans le ciel. Là-bas, il n'y a plus de tentations, plus non de doutes. Nous pouvons la réjouir et remercier Dieu éternellement. Mais maintenant, nous sommes encore sur le chemin et nous avons besoin d'aide, qu'on nous aide. Et nous le recevons par l'Évangile. Dans l'épître aux Hébreux, on a dit bellement, avec les paroles très belles et consolantes, entrons donc dans leur trône de la grâce pour que nous trouvions l'aide et la grâce au temps convenable. Il est pourquoi c'est important à venir à l'écoute des paroles de Dieu. Pour avoir la fortification pour notre foi faible. Toi qui peut-être cherches la paix de Dieu pour ton cœur, et toi qui veux croire, tu peux maintenant croire tous tes péchés pardonnés au nom et au sang de Jésus. Et toi, mon compagnon de voyage, toi qui as eu beaucoup de doutes et toi qui ressens que les péchés t'enveloppent si facilement, toi aussi, tu peux croire tous tes péchés pardonnés au nom et au sang de Jésus. Et tu peux te sentir rassuré. Chers sœurs et frères en foi, quand je suis venu ici devant vous pour proclamer la parole de Dieu, je me suis senti comme Paul quand il a écrit dans le premier épître aux Corinthiens. Frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ainsi ressens aussi moi. C'est Dieu qui va nous donner ce que nous proclamons. Et uniquement par la foi, nous pouvons tous un jour entrer dans le ciel. Par la foi qui est agréable à Dieu. Je veux demander si je peux encore croire mes péchés pardonnés. Je veux croire au nom de Jésus. Amen.